Mohamed Hakoun, est-ce qu'il faut s'attendre à une guerre entre le monde de la raison, entre parenthèses, l'Occident, et le monde de la foi, l'Orient?
Je ne pense pas qu'il y ait une guerre au sens classique d'un affrontement de type militaire, parce que nous avons bien vu dans la dernière guerre, la guerre du Golfe, que les forces techniques, technologiques sont tout à fait disproportionnées. Il n'est pas question pour le reste du monde, quand je dis le reste du monde par rapport au groupe des sept, les sept nations les plus riches du monde, comme on dit, les plus puissantes du monde, il n'y a pas de comparaison possible entre les forces dont dispose le monde riche, le monde dit développé, et le reste du monde. Et je dis bien le reste du monde, ce n'est pas seulement le monde musulman, c'est aussi le monde hindou, le monde bouddhiste, le monde africain. Et c'est le reste du monde qui est marginalisé. Et il faut donc penser à cette marginalisation, à cette expulsion. En France, c'est dans les sociétés européennes elles-mêmes, il y a un mot qui a fait son apparition récemment, c'est l'exclusion. Il y a des Allemands qui sont exclus dans leur propre société. Imagine-t-on qu'il y ait des mendiants à Hambourg, qu'il y ait des mendiants dans le métro parisien, chose qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Voilà la grande défaite de la pensée politique dans cet Occident qui, par ailleurs, est puissant. Je dis il est puissant, je ne dis pas il est riche. Il a sûrement développé la raison dans beaucoup de secteurs qui exaltent l'esprit humain aujourd'hui par les découvertes, des progrès qui sont faits. Mais il y a là un échec, là aussi, qui est disproportionné par rapport à ce que la raison a accompli historiquement dans l'espace européen, dans le monde européen. C'est là qu'il faut regarder sérieusement. Ce n'est pas l'évocation d'une guerre imaginaire entre justement des sociétés affaiblies, fragilisées, meurtries, livrées à des mécaniques sociales, comme dans le Rwanda, comme en Algérie, comme au Cambodge, Pol Pot, dont on parle si peu, comme dans beaucoup d'autres sociétés. Alors je m'élève contre cette évocation d'une guerre qui montre comment fonctionne un imaginaire européen aujourd'hui, imaginaire qui par ailleurs se réclame d'une raison conquérante, cohérente, travaillant pour la rationalité. Vous voyez, tout cela, ce sont des incohérences que nous ne pouvons pas accepter. Et ce qui personnellement me rend triste, c'est que les Européens en charge des grandes décisions politiques ne parlent pas dans le langage que je viens d'utiliser. Ils n'évoquent pas cette profonde fracture qui existe dans le monde actuel pour y remédier avec des décisions politiques, car seules des décisions politiques peuvent remédier à cette situation. Sinon, elle va s'aggraver et elle est en train d'atteindre les sociétés européennes elles-mêmes.
Est-ce qu'on peut séparer le monde en un monde de la raison et un monde de la foi?
Absolument pas. Ça aussi, c'est une dérive idéologique de la raison en Occident. C'est une dérive que nous avons connue au XIXe siècle sous le nom de positivisme, sous le nom d'historicisme, parce qu'on a voulu expliquer l'évolution des cultures et des civilisations en regardant uniquement le côté historicisé, c'est-à-dire chronologisé, décrit dans une chronologie de l'histoire des sociétés et des cultures. Au XIXe siècle, on a éliminé le mythe comme une dimension essentielle de toute culture humaine. Et on a dit le mythe, c'est de la fable, c'est de la légende. Il ne fait pas partie de la documentation historique. Ça, c'est la dérive épistémologique, la dérive rationnelle de la raison historiciste, précisément, surtout dans la culture allemande, qui a beaucoup connu ça, et qui a atteint Bultmann, qui a atteint Karl Barth, les grands théologiens protestants, qui ont démythologisé les évangiles. Voilà les effets de cette dérive de la rationalité historiciste. Aujourd'hui, l'anthropologie essaye de remédier à cette dérive. L'anthropologie critique des cultures, critique car il faut qu'elle soit critique, des cultures, est accueillante aux mythes. Et elle découvre que dans les sociétés européennes les plus rationalisées, il y a des mythes ravageurs. Je n'ose pas évoquer la mythologie politique qui a ravagé l'Allemagne et le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est sinon une dérive mythologique qui est prête à ressurgir? Elle n'est pas complètement disparue parce que le mythe est inscrit dans l'esprit humain. Nous le produisons. On a voulu l'écarter en disant avec arrogance que nous, nous maîtrisons les choses avec la raison, mais c'est faux. Il faut donc examiner non seulement la foi, mais la dimension mythique des cultures. C'est dans la dimension mythique des cultures que se constitue l'expression religieuse de ce que nous appelons la foi. Il n'y a pas de croyance religieuse qui ne soit fondée sur des visions mythiques qui sont ensuite mythologisées, c'est-à-dire fragmentées, dispersées, parce que le mythe est cohérent. Le récit mythique est cohérent. Il explique dans une cohérence littéraire parfaite des vérités profondes. Voilà ce que c'est que le mythe. Ensuite, le mythe, quand il est popularisé, se fragmente. Il éclate. Il devient des mythologies, plus ou moins cohérentes. Et le troisième stade de cette fragmentation de la culture mythique, c'est l'idéologie actuelle, qui, elle, fracasse avec force le monde du mythe qu'elle rejette au profit de ce qu'elle présente comme étant le monde de la rationalité. Ça, c'est l'Occident. Et l'Occident est dangereux pour ça. Il est très dangereux. Et je pense que la pensée occidentale n'a pas, malgré les efforts de la recherche anthropologique, n'a pas encore maîtrisé la dimension mythique de toute production culturelle des sociétés.
Vous, personnellement, pourquoi avez-vous décidé de quitter votre pays, un pays musulman, pour devenir un islamologue en France, à Paris?
D'abord, je n'ai pas quitté mon pays, parce que ma famille est toujours là-bas. J'ai 8 frères et sœurs, j'ai une cinquantaine de neveux. Ma mère est toujours vivante. Mon père est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai toutes mes racines et toute ma famille et mes liens en Algérie et j'y vais régulièrement. Non seulement je vais en Algérie, mais je vais dans toute l'Afrique du Nord qui est mon pays. Le Maroc, c'est mon pays. La Tunisie, c'est mon pays. Les Maghrébins sont un peuple très uni culturellement et très unis par les origines historiques. Et lorsque donc je me trouve dans un de ces pays, je peux aller aussi vers la Libye. La frontière anthropologique là aussi commence à partir de Benghazi. Et au-delà donc du Maghreb, je vais aussi dans tous les pays musulmans. Je visite l'Indonésie. Je visite les musulmans de Chine. Je visite les musulmans de l'Asie centrale. Donc, au contraire, le fait que je sois à Paris me donne la possibilité d'être un citoyen non seulement de l'ensemble du monde musulman, Mais à partir de ma connaissance, de mes expériences dans le monde musulman, je suis devenu un citoyen militant de l'Union européenne. Voilà mon parcours. Je milite, comme vous l'avez vu, pour la réussite de l'Union européenne, parce que je vois, j'investis un grand espoir dans le changement de l'attitude politique des États-nations de l'Europe occidentale vers un espace politique européen fédéral où les nations européennes investiraient leur richesse historique pour développer une autre conception des rapports entre les peuples, en particulier du monde méditerranéen. Voilà ce pourquoi je milite avec un certain nombre d'intellectuels musulmans comme moi, d'origine musulmane plutôt, parce que avec ce parcours, on ne peut pas dire que nous sommes des intellectuels musulmans seulement. Nous sommes des intellectuels qui embrassons des forces de l'histoire, des enseignements de l'histoire plus riches, et ça je le clame, je le revendique, plus riches que ceux dans lesquels se trouvent enfermés les intellectuels européens pris dans leur tradition nationale. Je veux dire, par exemple, les intellectuels français, les intellectuels allemands, les intellectuels hollandais, ils n'ont pas une vision claire de la participation historique du sud et de l'est de la Méditerranée à la production de la culture européenne dont se réclament ces intellectuels. Et aujourd'hui encore, il y a dans les universités, par exemple, des départements qui disent « histoire non européenne »,« pensée non européenne ». Regardez la définition. Jamais je ne dirai cela. Jamais. Parce que je veux embrasser l'unité culturelle, historique, l'unité spirituelle de l'espace méditerranéen, dont procède la pensée européenne, en tant que pensée chrétienne, tradition chrétienne, et en tant que pensée gréco-romaine qui vient de la Méditerranée. Ce remembrement de l'histoire de la Méditerranée qui englobe l'Europe et le monde arabo-turco-irano-musulman. Voilà la géopolitique qui embrasse l'ensemble de la culture. Cette vision-là, je ne connais pas beaucoup d'intellectuels allemands, français, anglais, hollandais, bref, européens, qui la défendent avec cette clarté, avec cette conviction, avec cette décision. Je ne connais que des intellectuels qui posent aujourd'hui la question de la menace que fait peser l'islam sur l'Europe. C'est tout ce que je connais. C'est désastreux. Et c'est humiliant pour la raison européenne de penser de la sorte à la fin du XXe siècle.
Et d'ailleurs, vous êtes un musulman convaincu, pratiquant même?
Bien sûr, je ne renonce pas à, justement aux enrichissements que je peux trouver dans la tradition culturelle et intellectuelle islamique, car elle a eu son moment extrêmement nourrissant, extrêmement important. Du 7e au 13e siècle, c'est dans l'espace musulman que s'est trouvée la raison, que s'est trouvée la rationalité, que s'est trouvée la recherche scientifique, comme on l'appelle aujourd'hui. Et ça n'est pas déplacé dans le monde des mathématiques, dans le monde de la médecine, dans le monde des sciences naturelles, dans le monde de la chimie, même si elle était liée à l'alchimie au Moyen-Âge, dans tout le monde de la connaissance scientifique, c'est dans l'espace musulman que cela se trouvait jusqu'au XIIIe siècle. Évidemment, après, il y a eu une rupture, mais ça, c'est l'histoire, justement, du bassin méditerranéen. C'est une rupture qui est due à des rapports de force économiques et politiques qui ont été inversés au bénéfice de l'Europe, justement. Et voilà pourquoi je ne lâche pas le lien avec l'Europe. Pourquoi voulez-vous que je le lâche? Étant donné que c'est parti de Bagdad, de Cordoue, de Kairouan, de Fès, du Caire, de Damas, d'Ispahan, de Téhéran, toutes ces villes ont participé à animer la dynamique de l'esprit pour la recherche, la construction d'une rationalité à la fois philosophique, théologique, scientifique. Et je vois là une continuité que moi je ne brise pas. C'est une belle continuité. C'est l'Occident qui l'a brisée en disant que la modernité a émergé au XVIe siècle et qu'avec cette modernité on peut éliminer tout le reste. Et en particulier, on a éliminé la dimension religieuse, y compris la dimension religieuse dans son expression chrétienne, parce que le christianisme est tout à fait minoritaire dans les sociétés européennes. Et ça, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'il faut en pleurer, puisqu'il y a malgré tout des chrétiens européens qui tiennent encore à l'inspiration chrétienne. Et qui considèrent qu'il y a là une morale, qu'il y a là une spiritualité qui est digne d'être cultivée, même dans la modernité, pourquoi pas. Vous voyez, c'est un musulman qui vient dire des choses pareilles sur le christianisme. Et je trouve dans le christianisme des valeurs qui ne sont pas dépassées à mes yeux.
En ce qui concerne l'islam, quel est le message ? L'essentiel, le plus important de l'islam, selon vous.
C'est exactement le message qui se trouve déjà affirmé dans la Bible, dans les 10 commandements. C'est ce message-là qui continue sous une modalité un peu différente, dans la mesure où le sens du rapport à Dieu, à un Dieu absolu, monothéiste, comme on dit, ce rapport-là est plus affirmé que dans le cadre théologique chrétien de la Trinité. Mais ça, ce sont des modalités d'expression de la foi religieuse. Ce ne sont pas des différences. Ce sont des modalités intellectuelles et culturelles et rituelles qui n'affectent pas l'essentiel du message des trois religions monothéistes, qui est le rapport de l'homme à l'absolu d'une part et le rapport de l'homme à ce que les religions appellent le péché. Le péché, c'est cet affaiblissement dans l'homme, du sens précisément de la valeur de l'esprit humain. C'est ça le péché. Ça n'est pas une faute morale seulement, c'est une faute intellectuelle contre l'esprit. Rappelez-vous cette belle scène de Jésus dans les évangiles pour la femme adultère, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une révolution profonde de la conscience. Il faut d'abord que je mesure mon rapport à la faute que je peux commettre pour que je puisse me permettre d'aller lapider une autre personne. Au nom de quoi? Mais c'est merveilleux. Eh bien, vous trouvez dans le Coran le même renvoi de l'homme à sa conscience pour déterminer son propre rapport à la conscience. Et ensuite seulement, oser humblement parler de la faute de l'autre. Mais c'est merveilleux. Ça n'est pas dépassé, ça. C'est pas l'affirmation arrogante, puissante politiquement et actuellement ravageuse idéologiquement des droits de l'homme tels qu'on l'exerce dans les discours actuels. Ça n'est pas cela qui nous rapproche de cette révolution essentielle de la personne au profond d'elle-même, que nous trouvons justement dans cette expérience religieuse, que nous appelons religieuse, mais on peut l'appeler intellectuelle, on peut l'appeler spirituelle, du rapport de l'homme à soi-même sur le plan de la faute et du mal. Voilà ce que c'est que la confrontation entre les deux. Mais nous avons perdu cette confrontation du fait d'une dérive idéologique vers la puissance au détriment du sens de la rationalité occidentale. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous voyez que je le dis sur un ton d'analyse intellectuelle beaucoup plus que sur le ton religieux du sermon. C'est pour cela que les religieux ont perdu la partie, parce qu'ils font des sermons. Ils ne font pas de l'histoire. L'histoire qui creuse et qui montre où se situent les dérives idéologiques par rapport au travail de la raison. C'est cela qu'il faut faire, au lieu de continuer à faire des sermons.
Donc, selon vous, il y a des points en commun entre les deux religions, en ce qui concerne peut-être les choses de la morale. Et il y a beaucoup de chrétiens ici qui s'intéressent sérieusement pour l'islam et qui essayent de connaître cette religion à travers d'une lecture du Coran et qui tombent d'habitude sur une contradiction en ce qui concerne le traitement des juifs et chrétiens. Oui. Parce qu'il y a dans le Coran des passages qui sont presque des éloges pour les chrétiens. Oui. À l'autre côté, il y a aussi des passages qui mettent en garde les musulmans de prendre des chrétiens ou des juifs comme des amis. Oui. Pouvez-vous aider les gens qui oui. veulent résoudre cette contradiction?
Oui, oui, absolument. C'est effectivement très difficile de lire aujourd'hui le texte coranique. Parce que ce n'est pas un texte construit rhétoriquement comme nous construisons aujourd'hui un texte cohérent, parfaitement déductif, obéissant à la logique déductive que nous a enseigné le vieux Aristote. Le Coran est un ensemble de textes ou d'énoncés qui ont été faits dans des circonstances différentes pendant 20 ans. Ce n'est pas un livre qu'on a écrit, qui a été écrit par un auteur de façon suivie. C'est des jaillissements devant des problèmes concrets que le prophète a connus pendant 20 ans. Donc, quand nous juxtaposons un verset à un autre, en réalité, nous juxtaposons des situations politiques, sociales, législatives, complètement différentes. L'une a pu se produire la première année de sa mission, l'autre a pu se produire la 19e année. Au bout de 19 ans, il se passe des choses. Et aujourd'hui, nous lisons cet ensemble de textes hétéroclites, réunis dans un même livre, et nous les lisons avec notre formation que nous avons reçue à l'école de la cohérence du discours. Voyez, ça c'est très important déjà à comprendre, puisque c'est la forme même du livre que les gens ne comprennent pas. Ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que le Coran, comme la Bible, qui est aussi une création collective, qui s'étend sur plusieurs siècles, doit être lu avec des démarches exégétique appropriée. Et ça n'est pas donné à tout le monde. C'est une chose qu'il faut apprendre. Et malheureusement, ces démarches exégétiques ont été développées dans la pensée islamique jusqu'au 10e siècle. Après, ça s'est arrêté. C'est-à-dire, on n'a plus fait d'exégèse comme on continue de faire de l'exégèse dans le cadre chrétien. Puisque les chrétiens chaque fois bénéficient de la linguistique, de l'histoire, etc. et ils essayent de renouveler l'exégèse. L'exégèse musulmane n'est pas renouvelée. Il faudrait le faire, il faudrait se mettre au travail pour renouveler cette exégèse et justement montrer que les attitudes positives ou négatives, positives et négatives qu'on trouve dans le livre, peuvent recevoir aujourd'hui une exégèse qui remettent cela dans une perspective historique et qui changent complètement le rapport que les musulmans ont avec le texte coranique qu'ils ne savent plus lire. Ils ne savent plus l'interpréter. Autrement dit, ce que ressentent et font les musulmans aujourd'hui, malheureusement, c'est là et ça peut causer des ravages. Et ça cause parfois des ravages, malheureusement. Mais c'est basé sur une ignorance des musulmans vis-à-vis de leur propre texte. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut favoriser, en particulier dans les pays européens, une étude des textes religieux en général, par exemple une étude comparée de l'Évangile, de la Bible et du Coran, qui serait enseignée comme une histoire des textes religieux, pas comme un catéchisme. Et c'est là la réponse qui devrait être donnée justement à cette situation qui, pour l'instant, est fondée sur l'ignorance aussi bien des Européens qui ne peuvent pas lire ce texte coranique, mais plus gravement des musulmans qui ne le lisent pas non plus, correctement. Donc c'est ce que vous dites là, c'est basé sur l'ignorance, malheureusement généralisée, et on ne fait rien pour y remédier.
Donc il n'y a pas de problème pour les musulmans de prendre des chrétiens comme des amis?
Absolument pas. Si on nous laisse la possibilité de faire une exégèse nouvelle du Coran, ce problème disparaît. C'est ça le...
Oui. revenons aux gens qui s'intéressent pour l'islam.
Parce que vous ne pouvez pas modifier le rapport que les croyants ont avec un texte fondateur, Coran, Évangile ou Bible, vous ne pouvez pas le modifier si vous ne modifiez pas la culture avec laquelle les gens lisent ces textes. Et voilà pourquoi, pour l'instant, les musulmans continuent de lire ces textes d'une manière rigide, d'une manière dogmatique. Elle n'a rien de scientifique, elle n'a rien de culturel. Ils ignorent les rapports que le Coran entretient avec la Bible et les évangiles. Quand le Coran dit que Jésus est le Verbe de Dieu, c'est la définition même des chrétiens. Elle est dans le Coran. Mais les musulmans l'ignorent aujourd'hui. Ils ne savent pas ce que c'est. La notion de logos de Dieu, ils ne savent pas ce que c'est.
Alors, les passages qui mettent en garde les croyants contre les juifs et les musulmans, peut-être il faut les lire dans le contexte historique.
Absolument. Comme vous le faites pour la Bible et pour les évangiles, il faut les lire dans un contexte historique et il faut les lire à la lumière de ce que j'ai dit sur le langage mythique. Parce qu'il y a beaucoup de langage mythique dans le Coran. Or, les musulmans ignorent ce que c'est que le mythe. Ils ne savent pas ce que c'est. Comme les Européens d'ailleurs. Parce que les Européens qui n'ont pas fait d'anthropologie, le mythe pour eux c'est de la fable. C'est zéro. Ils ne croient qu'à la rationalité. Donc là, il y a un problème de culture. Et tant que ce problème de culture n'est pas résolu, les croyants vont se battre sur la base de leur représentation imaginaire, purement imaginaire, de ce que l'ignorance, comme je l'ai dit hier, l'ignorance institutionnalisée, continue d'enseigner. Ce qu'on enseigne dans les universités même, au sujet de l'exégèse coranique, est très souvent fondé sur des ignorances, des choses fausses.
Prenons encore le cas de quelqu'un qui s'intéresse pour l'islam, qui voudrait s'informer sur cette religion. Et il y a beaucoup de centres, pas beaucoup, mais il y a quelques centres soi-disant islamiques, par exemple ici à Hambourg. Il y a un centre islamique sous la direction iranienne. Mais là, très souvent, il y a des interprétations un peu fondamentalistes de l'islam.
Oui.
Donc, pour quelqu'un ou quelqu'une, peut-être une femme qui voudrait épouser un musulman, et il y a ces cas-là qui se dirigent vers un centre islamique, par exemple ici à Hambourg, elle va immédiatement trouver une interprétation un peu peut-être arriéré ou fondamentaliste de cette religion.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette absence de l'école rationaliste dans ces centres?
Mais parce que en Europe, les musulmans qui vivent en Europe n'ont pas de faculté de théologie, comme les protestants et les catholiques en ont dans toutes les universités d'Allemagne. Les théologiens qui enseignent dans les universités de Hambourg, de Heidelberg, de Tübingen, etc. Ce sont des chercheurs, comme les collègues de l'université. Et ces chercheurs écrivent des livres que les prêtres sont obligés de lire et d'en tenir compte, parce que ce sont des savants qui écrivent. Pour l'islam, il n'y a rien de semblable. Et alors, comme vous dites, chaque fois qu'un problème se pose, on va chez l'imam de la mosquée. Mais la mosquée n'est pas un lieu de recherche scientifique. C'est un lieu de culte, pour faire la prière, c'est tout. Alors on a réduit les musulmans à cette contrainte de limiter leur information à ce qui se trouve dans les mosquées, qui, encore une fois, les imams sont faits pour diriger la prière, comme le prêtre qui dit la messe. Il n'a pas fait d'études d'histoire de l'exégèse pour s'autoriser à faire de l'exégèse. Et ça, je le dis pour toutes les écoles musulmanes, qu'ils soient iraniens, ou qu'ils soient turcs, ou qu'ils soient marocains, ou qu'ils soient, je ne fais pas de différence. Moi, je suis historien de la pensée islamique. Je ne dis pas celui-ci a raison, celui-ci a tort. Je dis que tous, justement, n'ont pas fait l'exercice nécessaire d'étudier l'histoire critique de la pensée islamique. comme les théologiens chrétiens, protestants et catholiques étudient l'histoire de la pensée catholico-protestante. Et qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi parce qu'il y a une armée de professeurs de théologie qui peuvent les corriger et leur dire « vous dites des âneries ». Alors un évêque ne peut pas dire une ânerie parce qu'il va se faire ramasser tout de suite. Les imams peuvent dire toutes les âneries qu'ils veulent, personne ne viendra leur dire « c'est une ânerie ». Voilà la situation.
Par exemple, dans ce centre d'Hambourg, il y a des revues, il y a même Tehran Times, ça veut dire le journal officiel de la République islamique, soi-disant islamique de l'Iran. Il y a aussi des brochures qui disent bon, l'islam n'a pas besoin des droits de l'homme ou la liberté de penser seulement à condition qu'il y ait une multiplication des vertus islamiques. Donc, est-ce que ça, c'est l'islam?
C'est toujours la même chose, vous voyez. Bon, c'est-à-dire que les musulmans, il faut comprendre que les musulmans aujourd'hui, encore une fois, qu'ils soient iraniens ou qu'ils soient sénégalais ou qu'ils soient de Madagascar ou de n'importe où, tous ont un besoin d'identité, comme on dit. Ils ont un besoin d'avoir des références qui leur appartiennent. Et ces références, ils ne peuvent les trouver dans la conjoncture actuelle que dans l'islam. Mais un islam qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de lieu de recherche qui puisse diffuser une connaissance historique critique de toute la pensée islamique dans toutes ces écoles qui ont existé du 7e au 13e siècle, parce qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont existé et qui aujourd'hui ont disparu. Si par exemple l'école Mu'tazilite avait pu vivre jusqu'à nos jours, si elle n'avait pas été éliminée dès le 11e siècle par le pouvoir politique, eh bien déjà beaucoup de musulmans ne parleraient pas comme vous dites là et comme ils parlent effectivement. Il n'y aurait pas ces erreurs monstrueuses que beaucoup de musulmans commettent à l'égard de leur propre histoire. Malheureusement, nous vivons sur un état d'ignorance qui s'est accumulé à l'intérieur même des pays musulmans, de tous les pays musulmans. Il n'y a pas d'exception à cela. Une ignorance de l'histoire de l'islam qui s'est accumulée jusqu'à nos jours. Même si vous allez en Égypte, ou si vous allez en Syrie, ou si vous allez au Pakistan, à l'intérieur de ces pays, vous trouverez la même nuance. Ce n'est pas seulement parce qu'on est en Allemagne, à Hambourg ou ailleurs. C'est ça la situation dramatique dans laquelle se trouvent malheureusement des masses humaines considérables qui n'ont pas été scolarisées, qui n'ont pas eu la possibilité d'accéder à une connaissance de leur histoire de façon à limiter ces inventions et ces mythologisations, comme je l'ai dit. Ce sont des mythologisations de l'islam et nous sommes obligés de les constater dans la société parce qu'il y a beaucoup de gens qui les répètent, donc elles ont une existence. Et malheureusement, là, les paroles que nous avons aujourd'hui à la radio, c'est un passage tout à fait exceptionnel, épisodique. Ça ne peut pas être quelque chose de suivi qui va avoir une diffusion. Il devrait y avoir à Hambourg, à l'université de Hambourg, un grand département d'études islamiques, avec beaucoup de professeurs. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne font pas leur travail, c'est pas ça. Ils le font, mais c'est trop peu par rapport à la demande sociale. Il y a une demande sociale pour ce genre de problème. Et il faut des professeurs bien formés pour pouvoir enseigner correctement. Et les professeurs qui sont à Hambourg, je les connais, ils enseignent, mais encore une fois, ils atteignent 100 étudiants. Ce n'est pas grand-chose. Par rapport à la demande sociale à Hambourg, à Berlin, à Munich et dans de grandes villes allemandes ou françaises ou hollandaises, etc. C'est la même situation partout.
Est-ce qu'il faut peut-être réfléchir sur les mots qu'on utilise d'habitude. On parle très souvent du fondamentalisme islamique, on parle de l'islamisme. Mais parfois, est-ce qu'il ne faut pas séparer le mot islam des structures temporelles, peut-être parler d'un fascisme au lieu de parler d'un fondamentalisme islamique?
D'abord, je voudrais mettre l'islam de côté. C'est-à-dire, il ne faut pas lier l'islam, justement, en tant que religion et en tant que tradition de pensée, il ne faut pas le lier à toutes ces dérives qui sont des dérives de nature politique. C'est-à-dire qui relèvent des conflits politiques à l'intérieur d'une société. Le fascisme, par exemple, il y a des tendances fascistes qui apparaissent en France quand on jette un Marocain à la Seine. Ou à Berlin, quand on s'attaque à un Turc. C'est des tendances fascistes. Mais on ne va pas les lier au christianisme. On ne va pas les lier à la pensée allemande, à la grande pensée allemande philosophique, à laquelle tout le monde s'intéresse et que tout le monde admire. Ce sont des dérives qui interviennent dans des sociétés où, justement, la maîtrise des idéologies n'est pas suffisamment exercée. Et bien, dans les milieux musulmans, malheureusement, on emploie toujours une référence religieuse, on ne dit pas des milieux algériens, des milieux marocains, des milieux pakistanais, des milieux indiens, des milieux turcs. On dit toujours des milieux musulmans. Mais c'est injuste, ça. Qu'est-ce que c'est que cette confusion? Ce qui peut arriver dans des milieux turcs n'arrive pas nécessairement dans des milieux marocains. Parce qu'il y a une culture marocaine. Il y a une culture tunisienne. Il y a une culture indienne qui s'exprime à travers la religion hindoue, la religion musulmane, la religion bouddhiste. Si on va en Inde, on ne va pas mettre tout le monde dans l'étiquette hindoue ou l'étiquette musulmane, c'est idiot. C'est la culture de la société indienne qui est très riche et qui s'exprime dans des cadres religieux différents. Alors apprenons à différencier ce que dit une religion, une tradition religieuse, et ce qui se passe dans des sociétés parfaitement définies par leur langue, par leur évolution historique, par leurs composantes sociologiques. En Turquie, il y a des Kurdes et des Turcs. Ils sont en train de se battre. L'islam n'a rien à y voir. Vous voyez? Alors tout ça, c'est des confusions. Je lutte pour essayer d'arracher le terme islam et le terme musulman à cette immense confusion. Et malheureusement, ma voix est trop faible. Je suis trop seul pour... nous sommes un petit nombre. Alors que les médias constamment répètent musulman, musulman, musulman. Ça, malheureusement, ça va nous coûter très cher encore.
Un État comme l'Iran, par exemple, est-ce qu'il ressemble plutôt à un État fasciste ou un État islamique?
Je n'ose pas porter des parce que en tant qu'intellectuel, je ne veux pas porter des étiquettes et des jugements sur des régimes globaux. Ce que l'on peut dire, c'est que l'État iranien actuel ne respecte pas les règles fondamentales de la démocratie. On va me dire que c'est une démocratie à la manière occidentale et qu'il y a une démocratie à la manière islamique. Là, nous entrons dans un débat de nouveau historique et dans un débat philosophique. Parce qu'il faut s'interroger sur la nature du droit qui fonde la légitimité de l'État, sur la philosophie du droit qui fonde la légitimité de l'État. Alors, si on accepte d'ouvrir cette discussion, on va à ce moment-là approfondir les proclamations d'un État qui se fonde sur des références islamiques, d'un État qui se fonde sur des références chrétiennes, il y en a eu, Franco par exemple et Salazar, d'un État qui se fonde sur des références sécularisées, laïcisées de la raison des Lumières depuis le XVIIIe siècle. On va discuter de ça. Alors vous voyez, je ne porte pas de jugement, mais je demande une discussion. Je demande une confrontation. Et je demande surtout que la confrontation soit libre. C'est-à-dire qu'elle soit, que celui qui participe à la confrontation, par exemple si nous sommes en Iran, que la liberté me soit reconnue et que ma personne ne court aucun danger. Ça, c'est un test sur la réalité démocratique ou non démocratique d'un État qui garantit aux citoyens la liberté totale de penser sans qu'ils craignent pour sa vie, sans qu'ils craignent pour les siens, sans qu'ils craignent pour sa carrière, sa fonction dans la société. Voilà un test.
Pensez-vous de la politique officielle de l'Allemagne à l'égard de l'Iran?
Ça n'est pas seulement la politique de l'Allemagne à l'égard de l'Iran. Encore une fois, je ne veux pas juger des rapports particuliers entre les États. Ce qui m'intéresse, et ce qui doit nous intéresser, tous, dans la conjoncture actuelle, c'est l'attitude des États européens, de tous les États européens, qui détiennent une hégémonie économique, monétaire, et même culturelle et intellectuelle, en tout cas technologique. La politique de ces États vis-à-vis non seulement de l'Iran, mais de tous les États, de ce qu'on appelait le tiers-monde. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant à examiner, parce que jusqu'à présent, les États, nations, en Europe, ont eu des négociations avec leurs homologues États de l'autre côté, sans se soucier des relations de ces États avec leur peuple. Est-ce que ces relations sont des relations d'État démocratique à leur peuple ou des relations d'État oppresseur par rapport à leur peuple? Autrement dit, fonder les relations d'État à État sur une conception de la démocratie et des valeurs de la démocratie qui soient respectées partout et non pas uniquement avoir des relations de type économique sans se soucier de ce qui se passe entre les États et leurs peuples. Autrement dit, on défend les valeurs démocratiques dans tous les peuples, pour tous les peuples aujourd'hui, ou bien on se dit, ça c'est l'affaire de chaque État, qu'il se débrouille avec ses peuples, alors qu'il y ait des massacres comme au Rwanda, on s'en fout, que ça aboutisse à des tragédies que nous voyons partout, on s'en fout, pourvu qu'on signe un contrat économique. Ben ça, c'est extrêmement mauvais. Parce que ça discrédite les valeurs démocratiques dont se réclament les États européens. C'est une négation de la morale politique dont se réclament les États européens. C'est donc un changement d'attitude, je dirais, philosophique des États vis-à-vis des relations qu'ils entretiennent avec l'ensemble des États dépendants, c'est-à-dire qui ont besoin de la technologie des Européens, de l'économie des Européens, de l'aide des Européens, etc. C'est cela qu'il faut dénoncer et sur quoi il faut porter la critique. Ce n'est pas uniquement la relation à Allemagne-Iran ou Allemagne-Égypte ou Allemagne-Algérie, etc.
Oui, il y a aussi les cas des fonctionnaires intégristes qui sont ici en Allemagne. Monsieur Kibir, par exemple. Comment jugez-vous
Ah, ça, je préfère ne pas parler de ça. C'est...
D'accord. Bon, revenons encore une fois sur le cas de quelqu'un qui s'intéresse vraiment pour l'islam, qui voudrait s'informer. Pouvez-vous recommander peut-être des livres, parce que normalement les gens qu'on connaît ici sont des représentants d'un islam fondamentaliste comme M. Khomeini, comme les autres de cette direction. Donc est-ce qu'il y a des gens qui donnent une image réaliste sur l'islam, des livres qui sont...
Oui, il y a un très grand livre qui est en allemand, et qui est écrit par mon ami Joseph Van Hess, professeur à Tübingen, et qui s'appelle Théologie und Gesellschaft, théologie et société dans les trois premiers siècles de l'Égypte.
Oui, donc c'est un livre malheureusement qui est un livre trop gros, qui comporte quatre gros volumes. Alors évidemment, je conçois que les Allemands ne puissent pas lire un tel livre. Je souhaite qu'un jeune Allemand qui fait des études islamiques puisse donner une version accessible au grand public de ce grand livre. Voilà, c'est un livre fait par un chercheur allemand, un professeur allemand. Et vous voyez ici la dramatique séparation qu'il y a entre la recherche universitaire et l'opinion publique. L'opinion publique est informée par des journalistes qui n'y connaissent rien. Et ce que font les professeurs, ça dort dans les universités, dans les bibliothèques. J'ai demandé à mon ami Van Hess de s'occuper de cette question, d'avoir une présentation claire et simple, en un volume de 200-250 pages, de l'apport scientifique merveilleux qu'il y a dans ce livre pour le public allemand. Et que ce livre soit traduit. D'ailleurs, je suis en train de faire tout mon possible pour qu'il soit traduit en arabe, pour que les musulmans le lisent en arabe. Il devrait être traduit en iranien, en persan. Il devrait être traduit en turc. Parce que c'est un grand livre qui montre ce que c'est que la pensée islamique. Et si les musulmans le lisent, ils vont modifier justement leur compréhension de l'islam. Vous vous rendez compte? Ben, ce livre dort, personne ne s'en occupe, même pas son auteur. C'est moi qui m'en occupe, c'est pas Van Hess qui s'en occupe. Ça, c'est dramatique. Van Hess, évidemment, il a beaucoup travaillé, alors il dit, ça, c'est pas mon affaire, je ne peux pas m'intéresser à ça.
Vous-même, est-ce que vous êtes connu très bien parmi les étudiants?
Ah oui,
maghrébins,
oui, 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 bien.
Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis marocains,
oui.
Qui me rendent souvent au Maroc.
Oui.
Et là, il y a même des étudiants de la philosophie qui parfois aiment acheter un de vos livres,
oui.
Mais qui trouvent que ça coûte trop cher.
Voilà.
Par contre, vous avez la comparaison, devant les mosquées, il y a la lecture
oui. Oui.
Fondamentaliste,
voilà. Voilà.
Qui est vraiment qu'on peut
oui, oui.
S'acheter pour quelques
voilà.
Centimes.
Oui, oui. Ça, c'est aussi un problème. La circulation de la pensée scientifique dans les pays pauvres. Voilà un lieu sur lequel les États européens devraient intervenir, si vraiment ils défendent la démocratie. Il faut aider la circulation des idées, surtout lorsque ces idées sont conformes, elles défendent l'essence même de la pensée européenne sur l'humanisme et la démocratie. Nous adhérons à ces valeurs, elles sont les nôtres. On ne les emprunte pas à l'Europe. Nous disons qu'elles nous sont communes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, nous les défendons ensemble. Voilà, hein, là, l'État n'intervient pas. Les États n'interviennent pas. L'aide économique n'intervient pas. Ce qui montre que la stratégie économique de l'exportation des marchandises est purement financière, budgétaire, et n'a rien à voir avec la défense des valeurs culturelles. Là, les États européens n'ont pas pris la mesure de leur responsabilité historique en séparant leur stratégie d'expansion économique et de contrôle monétaire de la circulation des richesses de tout ce qui intéresse la culture. Ça, il faut le dire avec force. Et ce que vous avez remarqué au Maroc, je peux vous dire que c'est vrai au Bangladesh, que c'est vrai en Inde, que c'est vrai en Indonésie, que c'est vrai partout. Et c'est malheureux parce que les efforts que nous faisons pour essayer de diffuser ces idées porteuses d'humanisme, eh ben, elles ne circulent pas. Elles atteignent peu de public.
Pour terminer la conversation, une question très simple. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ici à l'Occident de la culture islamique ou même de la religion islamique? Et à l'autre côté, qu'est-ce que les musulmans peuvent apprendre de notre culture?
Ce que nous pouvons apprendre, c'est la lutte que les hommes ont menée pour essayer de faire avancer la rationalité, la compréhension rationnelle de l'existence humaine, pour défendre des valeurs émancipatrices pour la condition humaine. Ce combat a été mené aussi bien à l'intérieur de l'islam qu'à l'intérieur de l'Europe chrétienne et maintenant de l'Europe des Lumières, de l'Europe sécularisée. En même temps, cette rationalité qui a cherché à s'imposer a été constamment contrariée des deux côtés par des dérives de recherche hégémonique, chercher à dominer le commerce dans la Méditerranée, la lutte pour le contrôle des routes commerciales dans la Méditerranée, la rivalité entre l'Empire ottoman et les États chrétiens d'Italie, d'Espagne, de France, d'Angleterre. Cette lutte qui a transformé les conquêtes de l'humanisme dans ses expressions chrétiennes, islamiques et judaïques, ces luttes-là ont tellement obscurci nos héritages humanistes qu'aujourd'hui, justement, nous nous trouvons devant une sorte de conflit majeur entre un islam qui s'exprime avec une force jamais atteinte jusqu'à présent de la démographie. C'est la démographie qui constitue la force principale des sociétés musulmanes. Mais une démographie, comme je l'ai dit, sans la technologie. S'il y avait cette démographie plus la technologie, là, il y aurait une guerre, comme vous avez dit, dans l'état d'ignorance où nous nous trouvons. Donc, ce que nous apprenons les uns des autres, c'est cette nécessité constante qu'ont montré les sociétés de part et d'autre, de vouloir être hégémonique, de lutter pour la puissance contre le sens. Le sens que les trois religions ont toujours essayé de faire prévaloir au sujet de la signification de l'existence humaine, la signification de l'homme en tant que personne, la vocation spirituelle, intellectuelle de l'homme, toutes ces valeurs-là qui sont partagées, elles existent, mais elles ont été régulièrement ou étouffées, ou éliminées, ou dénaturées par des expressions hégémoniques. Et cette lutte entre les deux, pour l'instant, elle est commandée surtout par le triomphe économique, le triomphe technologique, le triomphe de la puissance politique du côté de l'Europe vis-à-vis du monde musulman et par-delà le monde musulman vis-à-vis de toutes les sociétés dépendantes du tiers-monde. Et voilà pourquoi la responsabilité politique et la responsabilité intellectuelle se situent historiquement plus du côté de l'Europe que du côté des nations qui ont perdu la bataille.
Est-ce qu'il y a une chose qu'un chrétien moyen pourrait apprendre de l'islam?
Oui, il y a beaucoup de choses qu'un chrétien pourrait apprendre de l'islam pour corriger la conception que le chrétien se fait de la vérité religieuse. Il peut apprendre que la révélation dont se réclament les trois religions peut prendre plusieurs formes historiques et plusieurs formes culturelles. Et en considérant le Coran comme une forme culturelle et historique de cette révélation, il peut revenir vers sa propre définition de la révélation et l'a corrigée par ce qu'il a appris du phénomène coranique qui lui aussi a traversé l'histoire en tant que phénomène de la révélation tel qu'il a été reçu par les musulmans. Ça, c'est une leçon extrêmement importante. Au lieu de continuer à définir des révélations de façon séparée et concurrente, en disant c'est la mienne qui est la plus vraie, nous comparons les trois formes de la révélation dans leur développement historique. Et nous constatons que les hommes les ont reçues séparément et concurremment comme des révélations venant directement de Dieu. Et nous refusons encore de considérer l'incarnation historique de ces révélations dans les imaginaires des hommes. Alors il y a là une révolution sur la notion même de révélation. Et c'est une révolution mentale qui va affecter du même coup les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et par-delà, l'exemple des juifs, des chrétiens et des musulmans, c'est le phénomène religieux dans son ensemble qui sera remis en question, c'est-à-dire sur le chantier de l'interprétation, comme on m'a demandé hier la question. Et effectivement, personnellement, c'est ce que j'essaye de faire en considérant la révélation islamique comme un exemple historique que je compare à d'autres exemples historiques, pour essayer de regarder le phénomène de la révélation dans ses manifestations concrètes, réelles, et non pas dans les affirmations dogmatiques, théologiques, telles que les théologiens, séparément et toujours en rivalité, continuent de les enseigner. Voilà ce qu'on peut apprendre. C'est merveilleux.
Merci.